Chronique musicale. Les six. En ce moment, mes amis les six ont une bien mauvaise presse. Mon jeune ami Honegger seul trouve quelque indulgence devant l'opinion des musicographes, des calligraphes et autres graphologues, communément appelés critiques. On lui concède du talent, beaucoup de talent, et il en aurait davantage, bien entendu, s'il se retirait des six, dont il est l'unique et précieuse parure. Ceci est l'avis désintéressé des bons messieurs musicographes, calligraphes et autres graphologues, de bonnes gens, ai-je toujours dit. Pour mon compte, je suis très heureux du succès de mon excellent ami Honegger, car, si j'ai bonne mémoire, c'est au groupe des Nouveaux Jeunes, groupe créé par moi en 1917, qu'il fit ses débuts comme compositeur. Si j'étais fier, je pourrais l'être plus encore de cette constatation, mais je suis modeste, et je laisse aux musicographes, aux calligraphes et autres graphologues le mérite d'avoir découvert Honegger. Comme vous le savez, ce sont eux qui ont découvert Debussy, Chateaubriand, Christophe Colomb, le cardinal Ramponeau, Jonas, Cagliostro, etc. Le groupe des Nouveaux Jeunes, à la suite de ma démission, devint le groupe des six. Je restais en bon rapport avec mes jeunes amis, même ils me gardèrent comme fétiche, amicale gentillesse, sans plus. Hélas, je crains de leur avoir porté malheur à ces chers camarades. Pour le moins ont-ils hérité d'une partie des malédictions et dépréciations qui me sont si gracieusement octroyées par les musicographes, les calligraphes et autres graphologues déjà cités. Oui, pour l'instant, ils ne valent pas cher la tonne, les pauvres six, sauf Honegger. La raison ? Cherchons, si vous le permettez. Leur musique ne plaît pas à certains. Ces certains disent que cela n'est pas de la musique, que cette musique n'en a pas l'air, en tout cas. Pourquoi ? Je l'ignore. De plus, il leur est reproché, aux six, d'avoir du succès. Un succès immérité, naturellement. Oui, qui contrarie. Beaucoup. Notez que ces certains sont des gens doués d'un goût, d'une finesse et d'un entendement qui touchent à la magie, oui, parfaitement. Dans tout cela, il y a beaucoup de la faute des interprètes et du public. Et le public étranger, lui aussi, est bien coupable. À Bruxelles, j'ai assisté à deux concerts où se donnait cette sorte de musique. J'avoue que le succès obtenu par ces deux auditions m'a un peu écœuré. Pensez donc, rien que de la musique des six, c'est à ne pas croire, et c'était très périlleux de tenter un tel essai. Heureusement qu'au premier concert, je crus bon de prendre la parole et de faire une causerie dans laquelle j'exprimais toute l'admiration que j'ai toujours eue pour la critique, tout le respect que je ressens pour les membres de cette institution si utile, si vénérable, si grandiose. Ce n'était pas trop bête, hein ? Devant mon exquise politesse, l'assemblée entière but mes paroles avec bienveillance, voulut bien écouter les œuvres qui lui furent présentées et les accueillir favorablement. Ai-je trompé l'honorable société, abusé de sa confiance, trahi son innocence? Qui sait? Aujourd'hui, je regrette ce que j'ai fait, je ne le ferai plus, je le jure. Les six, à n'en pas douter, sont dangereux, ou le paraissent, oui. Il est honteux qu'ils aient du succès, autant de succès, bien sûr, mais tout n'est peut-être pas perdu. Je propose d'agir avec énergie. Les œuvres des six, sauf celles d'Honegger, seront brûlées vives par le bourreau Vuillermoz, homme terrible, mises à l'index des interprètes qui joueront, qui chanteront, qui danseront la musique des six, sauf celles d'Honegger. Les personnes qui assisteront, de près ou de loin, à un concert, à une audition, à une représentation d'œuvres quelconques des six, sauf celles d'Honegger, seront passibles d'un blâme, d'une contravention, d'une amende, etc. Et elles pourront se voir refuser l'entrée des magnifiques concerts, des délicieuses auditions et des superbes spectacles donnés par les seuls et réels compositeurs français et étrangers, bien et dûment apostillés, patentés et reconnus comme tels. Ainsi, nous aurons la paix, et tout rentrera dans l'ordre, le bon ordre. Chronique musicale. L'origine d'instruction. En exécutant, à une de leurs séances, la belle symphonie d'Albert Roussel, les concerts Padeloup ont accompli une noble action, mais ils ont troublé les eaux musicales en y plongeant le spectre de l'anarchie sonore, spectre plus connu sous le nom de cacophonie. Une horreur. Oui, les concerts Padeloup ont fait cela, et froidement encore, ce qui n'est pas beau, dis-je et redis-je. Parmi les reproches adressés à Albert Roussel, il en est un que je retiens parce qu'il a été exprimé par un prix de Rome. On lui fait grief d'être un amateur, parfaitement. Une question se pose. À quoi reconnaît-on l'amateur? C'est bien simple. À ce qu'il n'ait pas prix de Rome. Premier grand prix de Rome, bien entendu. Les seconds prix de la même ville sont non existants, ce qui est assez naturel entre nous. Il est certain, hélas, que je n'ai aucun goût, aucun talent. On me l'a assez dit, aussi vais-je, si vous le voulez bien, demander la parole pour un fait nullement personnel et qui n'a pas le moindre intérêt. Permettez-moi donc de m'adresser poliment la question suivante. Quel susvisé prix de choses, s'il vous plaît? Un être supérieur, hors cadre, de première qualité, hors série, épuisé et rarissime. Albert Roussel n'est ni supérieur, ni hors cadre, ni de première qualité, ni hors série, ni épuisé, ni rarissime, il faut croire. Je le regrette pour lui, mais je ne l'en aime pas moins, et il le sait bien, j'espère. Pour obtenir ce prix Italo Institut, il faut en avoir dans soi-même l'essence morale, le jus, si j'ose dire. Cette décoration s'accorde au concours. Elle est distribuée une fois par an, en été, aux plus méritants nécessairement, et ne l'obtiennent que les candidats qui ont l'air d'avoir l'air de rien. Être prix de Rome signifie beaucoup. Comme indication, c'est parfait. Devant lui, vous êtes prévenu, et vous savez à quoi vous vous exposez. Car le prix de Rome est franc, sa valeur n'est pas au-dessous du père. Si vous êtes refait, vous n'avez rien à dire. Quand je pense que Debussy lui-même faisait cher camarade avec ces gens-là, on retrouvait souvent chez lui des souvenirs du faubourg Poissonnière, bien que je reconnaisse que ces souvenirs s'imposaient à sa mémoire par pure intoxication. C'est ainsi qu'il eut la faiblesse de se laisser nommer membre du Conseil supérieur du Conservatoire. Il fut une véritable victime de son origine d'instruction, bien qu'il en corrigeât les méfaits autant qu'il le pouvait avec la plus grande énergie. Chose curieuse et flatteuse pour lui, le prix de Rome bénéficie encore d'un certain prestige. Beaucoup de personnes le croient supérieur à ses petits amis des autres espèces. Mais non, c'est le même, vous dis-je, ni mieux ni plus mal. Il leur est exactement semblable, oui. Je ne crois pas me tromper quant au choix en dressant ici la liste des prix de Rome musiciens les plus remarquables du siècle dernier. Berlioz, Gounod, Bizet, Massenet et Debussy. Franck, Dindy, Lalo, Chabrier et Chausson ne furent pas lauréats de l'Institut. Ce sont des amateurs. Thank you. Les peintres, avec Manet, Cézanne, Picasso, Derain, Braque et d'autres, se libérèrent des pires habitudes. À leurs risques et périls, ils ont sauvé la peinture, ainsi que la pensée artistique, de l'abrutissement total, perpétuel et général. Aussi, que ne leur doit-on pas ? Les littérateurs n'ont pas de prix de Rome, les braves gens. Aussi sont-ils privilégiés et enviés. Ils sont des heureux de ce monde, de ce grand monde et de ce bas monde, si mondain. Nous savons que les grades universitaires n'entrent pour rien dans la confection du littérateur, et il semble même que s'il ne savait pas lire, aucun reproche ne lui en serait fait. Ce serait un écrivain illettré, et voilà tout. Chez les musiciens, il en est autrement. Combien est-on souvent surpris de l'étrangeté de leur point de vue, de mauvaise vue ? Le ridicule les attire. Exemple, Lavignac, dans son livre « La musique et les musiciens », page 556, dit que l'école française peut à juste titre s'enorgueillir de compter dans ses rangs des maîtres comme Gastinel, Colomère, Canobie, Madame la Comtesse de Cranval, Falkenberg, Mademoiselle Augusta Holmès, Le Pot de la Haye, Debois d'Effre, William Chaumet, etc. Un pari, n'est-ce pas ? Il est évident que ces maîtres ont fait leurs preuves, le monde entier les vénère, vénérien sûrement. Remarquez qu'heureusement, ni Chabrier, ni Debussy, ni Ducas ne figurent parmi ces maîtres dont l'école française peut à juste titre s'enorgueillir. Et dire que Lavignac était un fort brave homme, hein. Notez que son livre est très consulté, et qu'il donne le ton dans les milieux pédagogiques, hein. Voilà ce que l'on enseigne à nos pauvres petits-enfants. Il est heureux que je n'en ai pas, même pas un seul. Le XIXe siècle nous a donné trois seconds prix de Rome saillants, Camille Saint-Saëns, Paul Ducas et Maurice Ravel. L'esprit concours de l'Institut est visible chez Saint-Saëns et Ravel. Il est invisible chez Paul Ducas. Ce musicien est le seul élève du conservatoire dont le sens créateur n'a pas été faussé par l'origine de son instruction. Et l'auteur de la Pairie est un des plus estimables penseurs qui soit, un admirable technicien. Il n'y a rien du pion en Paul Ducas. On est généralement convaincu que l'établissement officiel de la rue de Madrid peut seul insuffler le savoir musical. Moi je veux bien, mais je me demande à main jointe pourquoi nous autres musiciens nous sommes contraints de recevoir un enseignement d'État alors que les peintres et les littérateurs jouissent de la liberté de s'instruire où ils veulent et comment ils veulent. J'ai toujours dit qu'en art il n'y avait pas de vérité unique s'entend. Celle qui m'est imposée par des ministres, un sénat, une chambre et un institut me révolte et m'indigne. Bien qu'au fond, cela me soit assez indifférent. D'une seule voix je crie « Vive les amateurs !» Chronique musicale. Propos à propos de Igor Stravinsky. Le progrès a toujours vu se dresser contre lui de violents adversaires. Lesquels, constate-t-on, ne brillent pas nécessairement par le flair, non plus que par un banal bon sens. Oui. Ses adversaires défendent, sans grand succès du reste, de vieilles habitudes dont l'estimation à leurs yeux ne se peut établir. Ils veulent nous présenter leurs vieux pantalons, leurs vieilles casquettes et leurs vieux souliers comme des objets d'un prix inestimable, tant par la valeur disseux que par leur beauté propre. Un peu intramuros, disent-ils pour renforcer le terme. Pour eux, un objet est beau, solide et imperméable par le simple fait qu'il est hors d'usage et fortement rapiécé. Et surtout parce qu'il leur appartient, ajoutai-je, non sans une hypocrisie basse et perfide. Ce n'est pas si bête, bien que cela ne soit pas très malin ni très original. Et c'est pourquoi nous voyons un si grand nombre de vieilles locomotives, de vieux wagons, de vieux parapluies, etc., encombrer les voies publiques, régionales et cérébrales, et souvent urinaires. En tout cas, ces défenseurs de l'ordre, de la morale, des convenances, de l'honneur, de les saluer, de la nation, de la natation, du droit, du travers, de la justice et des coutumes préhistoriques, sont doués d'une politesse et d'une courtoisie d'hommes supérieurs, sûrs d'eux, tout confits de raison. Jamais un mot plus haut que l'autre vis-à-vis de leurs adversaires, jamais, je me plais à le reconnaître, même devant notaire. Par contre, le progrès, lui, est défendu par des partisans d'une toute autre espèce, gens effrontés comme des pages, aux culots formidables, renaissants et insolents. Ces gens, oubliant le respect dû aux honorables vieux pères tranquilles et autres sommités, vont leur petit bonhomme grossier de chemin comme si rien n'en était, et continuent froidement à marcher sur les pieds du pauvre monde, sans souci du qu'en dira-t-on, ni des yeux de perdrix crevés sous leurs pas. Oui, mais ce n'est pas ainsi que l'on agit quand on est bien élevé. Aussi je crains, de cheval, que cela ne leur porte malheur, dans 200 ou 300 ans au moins. Igor Stravinsky, pour nous autres vilains perturbateurs, est un des génies les plus remarquables qui aient jamais existé en musique. La lucidité de son esprit nous a libérés. Sa force combative nous a octroyé des droits que nous ne pouvons plus perdre. Cela est indiscutable. Plus incisif que celui de Debussy, son pouvoir de pénétration ne peut s'émousser. La trempe en est trop bonne. Il y a en Stravinsky une telle variété de moyens, un tel sens de l'invention que l'on en reste émerveillé. Dernièrement, Mavra a jeté une confusion bien instructive dans le monde musical. Nous avons pu lire quelques remontrances de messieurs les critiques, remontrances toutes plus comiques les unes que les autres. Parce qu'ils n'y ont rien compris. Il a été plus facile à ces messieurs de débiner le truc, si j'ose m'exprimer avec cette trivialité. Sous peu, ils comprendront. Trop même, soyez-en persuadés. Et ils nous révéleront Mavra, nous en désignant tous les mérites. Agricoles et civils. Et se les attribueront, sans la moindre frousse. Mais je veux vous parler d'autres œuvres moins connues, des travaux mécaniques récents de Stravinsky, expérience sur la technique des instruments enregistreurs. Ici, le grand musicien russe se montre un esprit véritablement libre, réellement indépendant. Qu'il me soit permis de féliciter Jean Wiener d'avoir le premier donné une place sur un programme à une interprétation mécanique. Malheureusement, les rouleaux présentés n'étaient pas au point, ce qui encouragea les opposants dans leur opposition et leur permit d'avoir un peu raison, bien qu'ayant tout à fait tort les pauvres. L'audition d'un instrument automate révulse les coutumes, indigne les usages, et une réalisation sonore aussi neuve offre des difficultés de toutes sortes, celles matérielles sont les plus clémentes, les plus souriantes. Combien est-il aride de remonter des courants créés au nom de prétendues traditions et dont l'unique agrément est la vétusté, oui. Il y a lieu d'être surpris lorsque nous entendons des virtuoses de talent nous dire qu'ils jugent les instruments enregistreurs comme de possibles concurrents. C'est, il me semble, se faire injure à soi-même que de concevoir une telle pensée, que d'avoir une telle crainte. Avant tout, le pianola est un autre instrument que son camarade le piano, dont il n'a que de fraternelles attaches. Igor Stravinsky, avant tout autre, a réellement écrit un morceau où certaines ressources propres à cet instrument se trouvent employées. Que les virtuoses du clavier sachent bien que jamais ils ne pourront faire ce que fait un ordinaire pianola, mais que, par contre, jamais un moyen mécanique ne pourra leur être substitué. Là-dessus, qu'ils dorment sur leurs deux oreilles, si cela peut leur être agréable. Par ses travaux, Stravinsky apporte à la musique un élément nouveau d'une richesse énorme. Nous pouvons à peine prévoir les bienfaits que nous répandrons les recherches de mon illustre ami. Je lui garde toute ma confiance et lui assure une définitive admiration. La différence de technique existant entre le pianola et le piano fait moins songer à celle qui sépare la photographie du dessin qu'au mode de reproduction rencontré dans la lithographie par comparaison au trait direct. Car en somme, le lithographe joue du pianola alors que le dessinateur, lui, joue du piano. Il est nécessaire que les musiciens s'intéressent à ce nouveau procédé de production phonique. Sans nul doute, l'enregistrement mécanique est une garantie. Il développera plus rapidement et plus sûrement l'écriture musicale que ne pourraient le faire tous les pions réunis ou non. Moi, je sais que Stravinsky est un magicien dont les tours n'ont rien à voir avec celles de la Feu Bastille. Chronique musicale. Les Périmées. Être périmé est évidemment une grande qualité et un titre de gloire. Toutefois, il serait préférable de ne pas abuser de ce titre ni de cette qualité. Les sous-debussistes, eux, ne sont pas de cet avis. Ils se périment automatiquement de plus en plus et en abusent les pauvres. Chacun est libre, parfaitement. Croyez bien que je n'ai pas perdu un pouce de mon affection pour mon regretté et illustre ami Debussy. Croyez bien que je n'ai pas perdu une ligne de mon admiration pour sa chère et délicieuse mémoire, non. Mais je ne puis que rire de ceux qui, aujourd'hui, parlent froidement en son nom et croient avoir hérité de son splendide génie, de son exquise manière. Personnellement, j'ai assisté de très près aux luttes que Debussy eut à soutenir contre les demi-personnages qui le louent à l'heure présente, qui se recommandent niaisement de lui, qui le découvrent actuellement. Il est peut-être regrettable qu'il ne l'ait pas fait aux heures difficiles, aux instants pénibles que mon génial ami eut à traverser. Pourtant, un grand nombre de ses post-admirateurs avaient à cette époque plus que l'âge de raison. Ils auraient pu un peu voir clair, même sans loupe ou sans binocle. Seulement, dame, on ne savait pas que, vous comprenez, car ces prudents roublards ne sont pas des héros et ne sont pas tenus de l'être après tout. Oui, alors ils ont attendu que cela vienne, que cela soit sûr, tout au moins. Aujourd'hui, on est plus moderne, on est autre chose, on est esprit nouveau. L'esprit nouveau enseigne à se diriger vers la simplicité émotive, vers la fermeté d'expression, sorte d'affirmation lucide de sonorités et de rythmes, au dessin précis, accentué, tout d'humilité et de renoncement. Je parle de la musique. Nous n'avons plus besoin de nous dire artistes, laissant cette dénomination reluisante aux coiffeurs et aux pédicures. J'entends dernièrement un très brave et digne homme qui disait à un délicat lettré chinois, ce n'est pas Monsieur Louis Lalois, « Pourquoi vous autres chinois êtes-vous restés aussi sauvages ?» Parbleu, ce brave et digne homme est un monsieur moderne, nullement boche, pas même bolcheviste. Mais oui, et il l'en faut féliciter. Le temps présent place ces messieurs périmés dans une posture assez comique. Entre deux selles de Vichy, si j'ose dire, leur voyage artistique ne peut que finir mal. Ils se sont embarqués sur un vieux bateau, moderne style, prenant l'eau jusqu'au bout des mâts. Ils écrivent riches, avec des dorures et un faux luxe, genre fauné, inouï. Leur mauvais goût saute aux yeux, aux oreilles et même aux mollets, des moins avertis. Ce mauvais goût les situe dans les bas-fonds de l'art, d'où ils ne pourront que croupir comme des vieilles noix, ignorées de tous, éloignées de la vie et de son eau, oui. Le soleil lui-même hausse ses épaules millénaires et brûlantes en écoutant leurs roucoulements prétentieux et insipides. Il refuse énergiquement de les éclairer, même au gaz, de ses rayons. Cet astre, dont l'honnêteté est bien connue, n'aime pas les doublures, surtout lorsqu'elles sont triples. Triplures. Il est assez étrange d'entendre des gens aux aspirations les plus plates vous parler de révolutionnaires. Tantôt ils se servent de ce mot contre vous, tantôt ils l'emploient à leur profit. Simple mauvaise foi, sans plus, oui. Évidemment, mon cher ami Vuillermoz s'y connaît, en fait, de révolutionnaire. C'est même lui qui inventa, il y a plusieurs siècles, les barricades. En somme, il est le type du révolutionnaire farouche et sanguinolent. Une horreur, quoi. Cas curieux que le cas Vuillermoz. Cet homme représente l'impersonnalité et l'incognito, à s'y tromper. Tout le monde en a une de ces frousses, que c'en est incroyable et angoissant. Regardez-le, en fermant les yeux, vous verrez devant vous une sorte de Robespierre à poil ras, du plus terrible aspect, vous dis-je. Oui, quel terroriste! Je me demande dans quel pays, par exemple. Cela doit se passer dans une contrée, rudement éloignée, une de ces contrées provinciales et pécuchétiques, trop connue, hélas. Sacré Vuillermoz, va, toujours le même. Ni bon, ni mauvais, mais pourquoi est-il aussi amer? Sans doute se prend-il pour une orange du même nom. Tout s'explique, alors. Ne nous occupons plus de lui, il est trop vilain. Bouh. Laissons-le se mordre les doigts à grands coups de grosse caisse sur le derrière de la tête. La jeunesse, présente et future, se chargera de mettre les choses au point. De jeunes musiciens surgissent à l'horizon. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps pour voir ce que sont Auric, Milo et Poulenc. Je suis fier de les connaître. Je suis heureux d'assister à leur succès. Le succès de mes jeunes amis agace certains drilles, sans personnalité, sans talent, sans élévation morale. Qui puis-je faire? L'avenir me donnera raison. N'ai-je pas été déjà bon prophète? Chronique musicale. Parlons à voix basse. Je désirerais que mes adversaires me connussent mieux qu'ils ne me connaissent, les braves gens. Tantôt ils font de moi un fou. Tantôt ils me représentent comme étant un être doué d'une platitude qui n'a d'égal que la leur. Peut-être se trompent-ils. Les qualités musicales que je peux avoir, je les dois à l'étude et à une native application du bon sens. Je n'ai jamais craint de mettre en pratique les vérités de M. de la Palice, mon maître. Ces vérités, qui n'ont l'air de rien, servent de base à l'esprit. Elles modèrent le romantisme du facile enthousiasme que nous avons tous en nous, hélas. Grâce à M. de la Palice, j'ai réussi à pouvoir inventorier un coin, un tout petit coin, de la vie humaine, et peut-être de celle animale. C'est ainsi que j'ai observé timidement que nos critiques ne sont pas toujours aussi raisonnables qu'il conviendrait qu'ils fussent. J'en ai tiré un exemple récent dans le poème de Padmavati, de M. Law Is L-A-L-Y, le célèbre critique que nous admirons tous. Pourquoi M. Law Is L-A-L-Y, d'habitude si fin, si délicat, comme tous les jaunes, les Chinois particulièrement, a-t-il écrit ce poème ? Dont l'intérêt est d'une maigreur quasi squelettique et d'une platitude de plateau central. Cela est d'autant plus surprenant de sa part que M. Law.isl.y est un des critiques qui m'ont le plus reproché ces mêmes vices rédhibitoires. Aurais-je fait en lui un élève? L'élève Law.isl.y? C'est possible après tout. Mais si j'ai un conseil à lui donner gratuitement même, qu'il relise ce poème et qu'il le jette dans son cabinet. Il fera là un beau geste et désintéressé encore, oui. Que d'occasions à médisance nos critiques vont avoir cet hiver. Le groupe des six, quelle horreur, exécutera quelques sorties avec tambours et musique, oui. À propos des six, dont on a plusieurs fois annoncé la chute mortelle, je dois reconnaître que, comme groupe, il n'existe plus. En somme, il n'y a plus de groupe des six. Mais il y a 6 musiciens, tout simplement. 6 musiciens de talent, indépendants, et dont l'existence individuelle est incontestable, quoi qu'on en dise ou fasse. Cette naturelle dissociation comble mes vœux. Ne l'avais-je pas prédite? En tout cas, la disparition des 6 comme groupe éclaircit la situation présente. Elle rétablit l'homogénéité dans l'attitude morale de la jeune musique. Et elle me permet de répéter presque triomphalement ce que j'ai toujours dit. Les 6 sont Auric, Milo et Poulenc. La venue de 4 nouveaux musiciens, messieurs Henri Cliquet-Pleyel, Roger Desormières, Maxime Jacob et Henri Sauguet, que j'eus l'honneur de présenter au Collège de France, va nous confirmer dans notre position esthétique. Ce jeune groupe de jeunes gens se fait appeler l'école d'Arcueil, par sympathie pour un vieil ami à eux habitant cette désignée localité et qui les aime beaucoup. Cet hiver, le public les connaîtra et pourra les juger, aussi bien du reste que n'importe quel critique. Il les défendra, j'en suis convaincu, contre les attaques de leurs adversaires. Et, indulgent et juste, il leur accordera un crédit toujours nécessaire, absolument essentiel. La prochaine saison sera féconde en nouveautés. Serge de Diaghilev organise à Monte-Carlo une série de spectacles un peu là. Jean Vienner reprend courageusement ses concerts, au vif des plaisirs de M. Flo.NT.SCH.T, Grand Prix de Rome, directeur du Crédit Lyonnais de la musique de Lyon et du Rhône. Alors qu'en Belgique, notre ami Paul Colaert continue à nous présenter à son public avec une opiniâtreté qui ébaudit M. Vuillers et lui noue les nerfs dans le fin fond du creux de l'estomac. Oui. Tout cela n'a pas l'air d'aller trop mal, et n'est pas trop vilain, dis-je moi-même.